Comme l'a dit très justement Vincent, je ne suis pas tout à fait un homme d'enseignement au sens, c'est pas uniquement une question de verticalité, c'est une question aussi de compétences. J'ai pas de compétences particulières pour enseigner, c'est plus de l'ordre du partage et de vous livrer un certain nombre de réflexions que je peux avoir sur le sujet, mais surtout pour qu'on en discute, parce que j'ai pas du tout le sentiment d'avoir la vérité sur ce domaine-là. Si on parlait rugby, je pourrais l'avoir davantage, mais là-dessus, je suis beaucoup plus hésitant. Voilà. C'est vrai aussi, pour expliquer, pas ma réticence, mais mon inquiétude à parler du corps, c'est-à-dire que je trouve que c'est un sujet qui est compliqué, qui est très riche, évidemment. La théologie du corps qu'on évoque beaucoup depuis quelques années m'a toujours laissé un peu perplexe. Voilà, et donc, voilà, je ne me sentais pas trop capable de pouvoir réfléchir à partir de là. Et donc, l'idée de partir du corps du Christ, de ce passage de la première épître de Paul aux chrétiens de Corinthe, et puis de réfléchir aussi avec vous, avant d'en arriver sur « nous formons le corps du Christ », voilà. Peut-être qu'on pourrait davantage réserver ça à demain, mais voir en fait ce que nous sommes, nous, les uns et les autres, nous qui sommes appelés à former ce corps. Voilà. Partir du point de départ, parce que ce corps, Paul nous révèle que nous en sommes chacun des membres, voilà. Chacun est membre de ce corps, comme nous le chantons, etc. C'est très joli. Mais en fait, qui sommes-nous, voilà. Et comment sommes-nous appelés à être incorporés à ce corps? Qu'est-ce que ça signifie pour chacun d'entre nous, dans nos itinéraires personnels et dans la manière dont ces itinéraires sont rejoints et sont sans cesse rejoints par la personne de Jésus. Peut-être commencer par partager une réflexion qui m'a beaucoup frappé. Une amie qui est égyptienne, copte, donc chrétienne, et qui dit souvent cette phrase que je trouve en fait profondément juste et à laquelle j'ai mis 50 ans à penser. J'ai 54 ans, ça fait 4 ans qu'elle me l'a dit. J'ai découvert ça il y a 4 ans, je me suis dit, c'est quand même dingue de découvrir quelque chose d'aussi évident aussi tard. Elle dit toujours, alors elle vient d'un pays majoritairement musulman, l'Égypte, où on a facilement tendance à dire ce que c'est qu'être un bon musulman. C'est la phrase un peu habituelle, un bon musulman sait ceci, il fait ceci, il fait cela, etc. Et elle dit, moi, honnêtement, ma seule espérance, c'est que le jour de ma mort, à mon dernier souffle, je puisse murmurer, j'ai essayé d'être une chrétienne. Et en fait, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que quand on se définit comme ça, de quelle religion, on dit, je suis chrétien. Et c'est difficile de dire autre chose, parce que, voilà, de fait, par le baptême, on est chrétien. Voilà, on est incorporé à ce corps qui est l'Église et qui fait de nous donc des chrétiens dans la foi en Jésus-Christ. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, être chrétien, c'est tout simplement vertigineux. Qui peut dire raisonnablement, je suis chrétien, à part Jésus lui-même? Et qui peut avoir cette folie et cette ambition-là de dire « je suis chrétien ». C'est absurde, en fait. Aussitôt qu'on le dit, presque on cesse de l'être, parce que, par définition, on ne l'est pas. Voilà. Et donc, prétendre le contraire, c'est un peu aventureux. J'ai essayé d'être chrétien. J'ai essayé, j'essaye d'être chrétien. Et je pense que, pour moi, le sens que je donne aussi à notre rencontre d'aujourd'hui, c'est que on est tous des hommes et des femmes qui essayons d'être des chrétiens, c'est-à-dire qui essayons d'être des disciples de Jésus dans un monde qui est compliqué, comme il l'a toujours été, comme il le sera toujours, et dans un monde où nous sommes nous-mêmes happés par toutes sortes de considérations qui font que dans nos vies personnelles, ça tiraille pas mal, dans nos vies publiques, ça tiraille pas mal, etc., etc. C'est pas simple d'essayer d'être chrétien. Alors, déjà, à l'époque de Paul, c'était le cas, parce que il n'y a pas de raison d'ailleurs que ce n'ait pas été le cas. Il écrit à son compagnon Timothée, le jeune Timothée qu'il a formé, qu'il a porté vraiment dans son amour, qu'il a chéri entre tous. Et dans la deuxième lettre qu'il écrit à Timothée, on voit bien que le brave Timothée, il n'est pas au summum de sa forme. Hein. Manifestement, il est très jeune dans sa mission, il est entouré de gens beaucoup plus avec lui, qui ont du mal à lui faire confiance. Il est lui-même probablement assez faible sur un certain nombre de points. Et le début de cette deuxième lettre à Timothée est très touchante. Voilà. Moi, je vous invite vraiment à relire les 11 premiers versets, parce qu'il y a quelque chose de magnifique dans la manière dont Paul... Je vais vous les relire, juste comme ça, pour que vous ayez en tête et pour que vous les écoutiez avec moi. Voilà, ça commence ainsi. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, ça rejoint un peu aussi ce que j'essaie de vous dire, c'est-à-dire que ce qu'il est, Paul, il ne cesse de le répéter et de le redécouvrir. En fait, ce n'est pas de sa propre volonté, ce n'est pas de son propre fait. Ce que je suis, c'est par la volonté de Dieu. Voilà. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus. À toi, Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu, le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je suis plein de gratitude, écrit Paul, envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle d'Eunice, ta mère. Et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ, Jésus, avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. N'aie pas honte de rendre témoignage. C'est magnifique la manière dont Paul s'exprime avec Timothée. Il lui parle de sa grand-mère, de sa mère. Il lui rappelle d'où il vient, voilà, ce chemin qu'il a parcouru. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi ce que tu as reçu. Rappelle-toi le don de Dieu. Et ce don de Dieu, ce n'est pas un don qui descend du ciel d'une manière magique et spectaculaire. Ce don de Dieu, il passe par ce cœur à cœur, ce mot à mot, ce bouche à bouche, quoi, d'une grand-mère pour son petit-fils, d'une mère pour son fils. Rappelle-toi ce don que tu as reçu. Ce don qui a circulé comme l'amour circule entre les êtres et qui est parvenu jusqu'à toi. Et que ce rappel-là t'aide à ne pas avoir peur d'être ce que tu es. Car tu n'as rien à craindre. Parce que précisément, si tu cherches à accueillir ce don et à le raviver, alors tu n'as rien à craindre. Mais c'est très important, je trouve, de pouvoir chacun, là où nous en sommes dans nos vies, entendre ou réentendre ces paroles de Paul. Parce qu'à travers Timothée, il s'adresse à chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes dans nos vies personnelles, comme je l'évoquais tout à l'heure, parfois tiraillés, parfois au bord des larmes, parfois dans les larmes, devant ce que nous voudrions être, ce que nous sommes, ce que nous nous demandons d'être, et toutes nos propres difficultés à gérer tout ça. Nous pouvons être tentés par le découragement, nous pouvons nous sentir rejetés, raillés, méprisés, nous pouvons nous sentir parfois abandonnés. Et à chacun d'entre nous, en fait, à travers Timothée, Paul dit ces phrases très simples. Rappelle-toi comment la foi est arrivée jusqu'à toi. ta grand-mère, ta mère. C'est très humain, en fait. C'est vraiment tellement basique, quoi, tellement simple. Voilà. Moi, je me souviens, mais peut-être parmi vous en est-il qui ont été baptisés à l'âge adulte, je ne sais pas. Je suis toujours très frappé de voir comment des catéchumènes, enfin des hommes et des femmes qui se présentent au catéchuménat, viennent et motivent leur désir de recevoir le baptême. Ils disent, en fait, tous, d'une manière ou d'une autre, avec leurs mots, ils disent, en fait, si je veux devenir chrétien, c'est parce que un jour, dans mon histoire, j'ai croisé un chrétien. Ça peut être ma grand-mère, quand j'étais enfant, qui m'emmenait en cachette de mes parents, qui étaient des bouffeurs de curé, qui ne voulaient surtout pas qu'on me farcisse la tête avec toutes ces histoires, toutes ces salades. Et ma grand-mère, elle m'emmenait à l'église le mercredi, voilà, quand elle me gardait, avec une bougie. Ou bien ça peut être cet étudiant qui me disait que quand il était en prépa à Bordeaux, dans la colocation où il logeait, il y avait un autre étudiant qu'il ne connaissait pas, et qui était un type absolument merveilleux, quoi, attentif, charmant, gentil, et qu'il a découvert un jour que ce garçon, tous les matins, priait, et que ça l'a interrogé, c'est quoi la prière? Ça peut être plein d'histoires différentes. Mais il y a toujours le moyen dont... Cette manière de se rappeler, de faire mémoire, de la manière dont la foi a pu m'être transmise, le désir de croire. Et ça, c'est vraiment la première consolation. Parce que, en fait, si vous voulez, avant d'évoquer cette question du corps du Christ que nous formons ensemble, c'est aussi faire mémoire ensemble de nos histoires personnelles qui font que nous sommes membres de ce corps. Car nous ne sommes pas des clones les uns des autres. Et pour être membre du corps du Christ, on ne nous demande pas d'être formaté selon des critères subjectifs, comme à l'époque du service militaire, pour rentrer, quand on rentrait les premiers de conscription, on se faisait raser la tête. Je me souviens, premier souvenir du service militaire, quand j'arrive, on nous rasait la tête. Moi, je n'avais pas beaucoup d'affection particulière pour ma chevelure, donc... Je n'étais pas traumatisé par l'événement, mais le type qui était à côté de moi, qui avait des cheveux très longs et ça, il pleurait comme un petit garçon, quoi. Donc il y avait des choses, on rentrait dans le truc, et voilà, hop, et puis c'est l'uniforme, c'est machin, quoi. Dans l'église, où est votre uniforme? Où est la coupe de cheveux réglementaire? Il n'y a pas ça. Donc on n'est pas du tout dans cette même logique-là. Voilà. Et donc, c'est vraiment nous qui sommes appelés, chacun tel que nous sommes. C'est quand même le grand génie du christianisme, hein, de pouvoir accepter cette réalité, non parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'accepter d'abord, c'est que le christianisme ne se régénère pas par la génération, ne se renouvelle pas par la génération. Nous sommes tous nés païens. Nous avons tous été des petits païens, sauf ceux qui parmi nous sont nés dans le judaïsme, mais autrement, nous sommes tous des petits païens. Et nous sommes devenus chrétiens par la grâce du baptême. Parfois quelques jours après notre naissance, parfois de longues années plus tard. Et c'est donc cela qui est honoré par Dieu, la liberté de pouvoir entendre et répondre à son appel. Je me souviens, quand je suis rentré au séminaire, j'avais exactement 20 ans, et on avait commencé l'année par une retraite spirituelle. C'est toujours très pieux le séminaire, donc il faut faire retraite et qu'on rentre au séminaire, c'était très bien. Et moi, je n'avais jamais fait de retraite spirituelle d'une semaine. J'avais été pour ma confirmation au week-end de récollection, où il y avait plus charité que fait beaucoup de dévotion. Mais donc, on dit retraite, très bien. Donc, un prédicateur qui vient, c'était à l'époque le père André 23, qui n'était pas encore évêque auxiliaire de Paris, qui nous fait une prédication, certainement très bien, je ne sais pas beaucoup de souvenirs, mais certainement très bien, très pieuse et très, très profonde. Et je vois très bien le deuxième jour, j'étais dans ma chambre de séminaire, il y avait un grand crucifix, qui n'était pas à moi, qui m'avait accueilli. C'était une espèce d'ancienne maison de retraite, je veux dire, pour personnes âgées. Donc les lits étaient des lits d'hôpitaux, et on avait encore les embouts des tuyaux d'oxygène, vous savez, c'était vraiment très, très enthousiasmant quand on avait là. On savait que, voilà, il faut parler de la mort, c'était bien. Et il y avait un grand crucifix, et donc, deuxième jour de retraite, je prie, je fais mon oraison devant ce grand crucifix. Et puis je suis saisi vraiment mais par une espèce d'angoisse très très profonde en me disant, mais en fait, mais Benoît, tu ne peux pas rester là, quoi, c'est pas possible. Toi qui es à ce point quand même limité, avec tout ce que tu portes en toi de faiblesse, de médiocrité, enfin de péché, etc. Qu'est-ce que tu vas afficher là-dedans, quoi ? Tu peux pas oser penser une seconde que tu puisses devenir prêtre et que le Christ t'appelle à ça, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible, vraiment. Et donc j'étais vraiment très, très angoissé par ce sentiment qui avait envahi mon âme, ma pensée, etc. Et donc je vais, au bout de 24 heures, quand même, je vais voir un des prêtres de ma maison, et puis je lui dis, écoutez, voilà, je pense qu'il faut en fait que je m'en aille, c'est 4 jours que je suis là, mais je pense que c'est vraiment une erreur profonde, alors je lui explique pourquoi. Et puis il y a un silence, et puis il me regarde avec beaucoup de bienveillance, c'est très très touchant en fait. Puis il me dit, avec une voix très très douce, il me dit, ben, tu vois Benoît, en fait la question c'est que, toi tu penses que le Seigneur a tort de t'appeler, bon. Et si lui t'appelle et qu'il pense qu'il a raison, des raisons de t'appeler, tu peux peut-être essayer de lui faire confiance. Et je pense que c'est vraiment la question qui nous est posée à chacun, en fait. Même si vous n'êtes pas, probablement pas tous appelés à devenir prêtre, en tout cas de cette manière-là, vous l'êtes par le baptême. Mais en fait, le Seigneur, il vous a appelé. Il vous a appelé. Par le baptême, il vous a appelé. Il a choisi de faire de vous. Voilà, des hommes et des femmes avec lesquels il fait une alliance particulière dans le sacrement du baptême. Vous pouvez vous dire, je suis vraiment un gros nul, ou une grosse nulle. C'est moins élégant. Mais c'est lui qui vous a appelé. C'est son affaire. C'est son choix. Comme l'a écrit Jean-Marie Lustiger, c'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, nous n'en sommes pas maîtres. L'erreur serait de penser que nous l'avons mérité et que nous en sommes dignes, ou que nous pouvons devenir dignes un jour. Hein, j'ai essayé d'être chrétienne. Et il y a là quelque chose, me semble-t-il, d'absolument essentiel pour chacun d'entre nous, à entendre et à réentendre. Ce choix de Dieu, il s'exprime par le baptême, et puis il s'exprime après par la manière dont, à travers ce que nous cherchons à découvrir de l'amour de Dieu, nous lui ouvrons nos vies à cette grâce du baptême. Moi, j'ai été pendant 11 ans, Vincent le rappelait gentiment tout à l'heure, j'ai été pendant 11 ans à Saint-Germain-des-Prés, et donc j'ai été au milieu d'étudiants. Donc j'ai passé en fait une génération d'étudiants. J'ai commencé, j'avais l'âge d'être leur grand-grand frère, j'ai fini, j'avais l'âge d'être leur père. J'ai un peu un coup, mais c'est comme ça. Et eux, ils avaient toujours le même âge, c'est ça qui m'est arrivé. Et vraiment, pour moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de leur dire chaque année et plusieurs fois, au point que ça pouvait devenir un peu, parfois, un peu saoulant pour eux. C'est que je leur disais, mais est-ce que vous vous rendez compte quand même de la responsabilité que vous avez, en fait ? Votre responsabilité, vous bossez comme des fous pour pouvoir parvenir à obtenir les diplômes auxquels vous vous préparez. Pour faire les études dont vous rêvez, pour exercer le métier que vous avez envie d'exercer. Vous êtes prêt à faire des sacrifices profonds, voilà, pour pouvoir parvenir à ce but-là. Mais comme chrétien, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme sacrifice ? Je veux dire, comme investissement de vous-même, pour mieux comprendre la foi qui vous a été confiée, pour la laisser grandir en vous, pour en avoir l'intelligence. La foi chrétienne, c'est pas simplement de dire le petit Jésus est dans la crèche, en colère et bœuf, et c'est très mignon, c'est très doux, c'est très gentil. Ça marche quand on a 5 ans. Oui. Après 5 ans, c'est quand même compliqué, à 14 ans, de se laisser séduire uniquement par l'image du petit Jésus dans la crèche, qui est tout mignon et tout doux. Voilà. Et puis, on voit bien que c'est quand même plus complexe que ça, parce que nos vies, elles se développent. Et donc, comment est-ce qu'on garde le contact avec ce petit Jésus de la crèche quand on devient soi-même adolescent, adulte et qu'on vieillit? Qu'est-ce qu'on essaie de comprendre de la religion et de la foi ? Comment est-ce qu'on est capable de pouvoir l'intégrer, voilà, la rendre intelligible pour soi-même et pour les autres ? Tout ça, c'est absolument essentiel. Essentiel. Et il y a un devoir, il y a une exigence pour chacun de nous à creuser cela, à travailler cela, à investir cela. Autrement dit, ce choix de Dieu, il nous oblige à être ce qu'il nous appelle à être. Il nous oblige au sens, vous voyez, au sens positif du terme. C'est-à-dire qu'il nous, il nous appelle à être, voilà. Et à ne pas nous laisser être. Voilà. Il nous appelle à être, à devenir. Parce qu'il y a sur nos vies ce choix-là, il pose un regard qui est un regard profondément empreint d'espérance. Autrement dit, ce choix qui s'est posé sur vos vies, dont vous avez pris conscience par, par cette, cette foi qui vous a été transmise et par l'amour qui en a été, d'une manière ou d'une autre, le vecteur premier, ce choix-là, il a comme conséquence de manifester pour vous le regard d'espérance que Dieu pose sur vos vies. Il veut faire de vous, chaque jour davantage, ses enfants, ses disciples, les compagnons de Jésus-Christ. Alors bien sûr, il y a plein d'embûches. Comme Timothée, nous pouvons nous trouver saisis et perturbés par les... par les actes, par tout un tas de choses qui viennent maltraiter cet appel, cette vocation, ce désir. Mais il n'empêche qu'il est bien réellement posé dans nos vies. Alors là, vous voyez, il y a un événement technique qui est absolument imprévisible, c'est-à-dire que cet abruti me demande mon code, alors qu'il ne devrait pas, et que pour le taper, il faut que je prenne un peu de temps. Donc je vous prie de m'excuser, voilà. Voilà. Alors, la conséquence de ça, c'est que pour chacun d'entre vous, le même appel résonne. Cet appel dont que j'évoquais tout à l'heure, par des périphrases, et qui pourrait se résumer par une seule phrase, c'est que le Christ vous appelle chacun à être apôtre. Il vous appelle chacun à être apôtre. Un apôtre, c'est quoi? Un apôtre, c'est un messager, c'est un envoyé à qui on confie une mission. Cette mission, elle n'est pas réservée à quelques-uns dans l'Église. Elle est confiée à chacun. À chacun. Et cette mission d'apôtre, elle est de manifester au cœur du monde le visage, les oreilles, la bouche et les mains du Christ. Il y a une très belle conférence de Timothy Radcliffe aux jeunes français à Thésée en 2011, je crois, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, dans laquelle il leur rappelle ces quatre aspects. Le visage, le chrétien, c'est celui qui est appelé à être le visage, les oreilles, la bouche et les mains du Christ. Le visage, pour la résumer et pour la... en la mettant un peu à ma sauce, le visage, parce que c'est la première manière dont nous prenons contact avec quelqu'un. C'est en regardant son visage, quoi qu'on en dise. On regarde toujours le visage de celui ou de celle que l'on croise. Voilà. Et de se laisser regarder aussi. Voilà, le visage, c'est pas simplement regarder le visage de celui qui est en face de moi, c'est accepter que celui qui me rencontre puisse découvrir qui je suis à travers mon visage. Voilà. Être le visage du Christ. Être le visage du Christ dans le monde. Et manifester à travers mon visage la manière dont Jésus regarde, voilà. Dont Jésus est présent dans le monde. Voilà. Le visage du Christ, c'est-à-dire chercher à ne pas à avoir un regard qui libère. Voilà. Moi, je suis très frappé quand on regarde les rencontres de Jésus dans l'Évangile, de voir à quel point le visage du Christ est vraiment, pour ceux qui le rencontrent, le lieu de leur libération. Jésus les regarde. Il pose sur eux son regard. C'est quand même pas rien, ça. Jésus pose sur eux son regard. Tout à l'heure, en venant dans le métro, j'étais un peu agacé par les... Parce que maintenant que je suis lillois, j'ai un peu oublié quand même la dinguerie de cette ville de Paris, qui est juste insupportable. C'est des trop bondés, même le samedi à 13h. Je ne sais pas comment vous faites, honnêtement, les Parisiens. faut partir, hein, faut, je veux dire, faut quitter cette ville, quoi, c'est pas possible. Et non, mais vraiment, c'est tellement mieux ailleurs. Et après 53 ans à Paris, je peux vous le dire. Et c'était très touchant. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup ému. Il y avait une maman qui devait, je sais pas, qui n'était pas spécialement âgée, hein, elle avait 60 ans, peut-être quelque chose comme ça. Hein. Puis elle avait ses deux filles qui devaient en avoir 25, 30. Voilà. Et alors, c'était très étonnant, elle ne se parlait pas. Et la maman était entre ses deux filles, comme ça, était debout. Puis elle avait son écharpe autour du cou, puis son écharpe bâillait un peu. Puis là, de ses filles qui vient, quoi, et puis qui lui remet un peu son écharpe bien. Puis l'autre, il y avait des échanges de regards qui étaient magnifiques. J'en avais presque les larmes aux yeux en les voyant. C'était vraiment très très beau, quoi. Le regard. C'est à travers nos regards que l'amour se communique. Voilà. Comment est-ce que nous regardons les autres? Comment est-ce que nous nous laissons regarder par les autres? Comment nous acceptons d'être, voilà, qu'à travers nos regards, quelque chose de l'amour du Christ se communique aux autres. Et nous soit communiqué aussi. Regard qui n'enferme pas, qui ne réduit pas, qui ne juge pas. Un regard qui ouvre au possible. Jésus posa sur lui son regard et il l'aima. Voilà. Phrase de l'évangile, vous la connaissez. Hein, c'est, il y a quelque chose avec le jeune homme riche, avec Jésus lève les yeux vers Zachée. Voilà. Jésus pose son regard sur la Samaritaine. Voilà. Pose son regard sur la femme adultère. Et il relève. Voilà. Les prostituées, les publicains vous précéderont. Tout ça, c'est Marie-Madeleine, Zachée, tout ça. C'est quand même pas rien. Les oreilles du Christ. Comment est-ce que nos oreilles sont capables de chercher à écouter, voilà, comme le Christ écoute? C'est ça l'apôtre, hein, c'est celui qui cherche à accueillir à ce point le Christ dans sa vie, qu'il a comme désir premier que ses sens à lui puissent être les moyens par lesquels Jésus se communique aux autres. Et ça aussi c'est très important à avoir en tête, c'est-à-dire que vous voyez bien que le christianisme, c'est pas une série de concepts, c'est pas des grands principes. Le christianisme, c'est l'incarnation de Dieu qui se fait chair. Voilà. Dieu vient habiter dans la chair de l'homme. Voilà. Il se fait homme parmi les hommes. Et il veut habiter dans notre chair. Célébrer il y a deux jours la fête de l'Immaculée Conception, occasion de pouvoir à nouveau réentendre autour de Marie, de sa personne, le Verbe qui se fait chair en elle, en son sein. C'est très important. Il n'y a pas de chose plus importante que celle-là. Voilà. Dieu se fait chair. Dieu veut devenir, veut entrer dans notre chair. Il ne veut pas juste être dans notre cerveau ou même juste dans notre cœur. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes, voilà, chair et sang, voilà, l'intéresse. Il aime ce que nous sommes. Il l'aime. Et il veut communier avec. Et le Christ ne peut pas venir à notre rencontre et être rencontré par nous simplement à travers la littérature, aussi savante soit-elle. C'est par la chair qu'il rentre en nous. Dieu se communique par la chair. Parce qu'il sait bien que nous ne sommes pas des purs esprits et que notre intelligence seule ne suffit pas à nous convaincre, mais qu'il nous faut l'expérience de nos sens. Et Dieu aime passer par nos sens. C'est très très important. Et c'est, je pense, aussi parce qu'on a perdu ça, que quelque part on a perdu le sens, enfin la capacité à témoigner du Christ. Parce que ça n'est pas uniquement une question de formation intellectuelle, ni même une question de formation spirituelle. C'est l'acceptation que tel que je suis, moi, homme, le Christ vient à ma rencontre à travers ce que je suis. et à travers mes sens. Et on voit bien, on en parlera demain davantage, mais on voit bien, un peu tout à l'heure d'ailleurs aussi, on voit bien que on en fait l'expérience parfois de ça. Vous savez, il y a des moments dans nos vies où l'exultation, comme le dit l'Écriture, hein, nos corps exultent. Voilà. Il y a des moments d'un bonheur tellement intense, quoi. Une espèce de truc dingue, quoi, qui vient. C'est comme des flashs. Hein. Je ne me suis jamais drogué, mais je pense que c'est un peu ça, quoi. C'est comme un flash incroyable, quoi, qui vient et qui nous. Et puis on voit bien que ça se traduit. Moi, pour moi, la phrase qui le traduit mieux, c'est ce vers célèbre, hein. Autant suspend ton vol, c'est vraiment ça. Moi, on aimerait que tout s'arrête. Alors, dans la relation amoureuse, ça existe, mais pas que. Et c'est pas uniquement dans nos têtes, c'est nos corps, quoi. C'est tellement bien, quoi. Je voudrais vivre ça toute ma vie. D'ailleurs, souvent, on s'épuise à retrouver cette émotion-là, comme si elle était le. Et pour moi, ces moments-là, ce sont des moments divins, vraiment, au sens premier du terme. Profond. Des moments où on atteint une plénitude dans l'amour, dans la joie, dans la jouissance. Quoi. Et on se dit, si la vie ça pouvait être que ça, mais ce serait le pied intégral. Quoi. Et donc on passe sa vie à essayer de retrouver ça. C'est là où on se trompe, c'est que précisément ces moments-là, ils nous sont donnés comme des prémices de quelque chose à venir. Voilà. Que nous on appelle la vie éternelle. Parce qu'on y croit, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris qu'il fallait l'appeler. Mais peu importe les mots qu'on utilise pour le désigner. Cette communion pleine et entière avec notre Créateur, voilà, qui nous donne de pouvoir vivre dans nos sens, dans nos corps, les prémices de ce que sera cette communion pleine et entière à travers l'exercice de ces moments-là, la pratique de ces moments-là, le ressenti de ces moments-là. Le regard, les oreilles, voilà. Être attentif aux cris de nos frères, être attentif à leurs appels, c'est quand même pas rien. Le chrétien, c'est celui qui est attentif aux appels. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, ces appels, ils sont nombreux et ils sont dérangeants. Parce que forcément, ils viennent nous remettre en cause dans nos habitudes, dans nos conforts, dans nos certitudes même. C'est intéressant de voir, par exemple, qu'aujourd'hui, selon un récent sondage qui a été publié là en septembre, quand on pose la question aux Français, est-ce que vous croyez en Dieu ? Eh bien, il y a 27% des gens qui répondent oui. C'est très intéressant parce que c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité que dans une civilisation donnée, en l'occurrence notre continent européen, dans sa partie occidentale, à la question « Croyez-vous en Dieu ?», une majorité de gens répondent « Non » ou « Je ne sais pas ». Jusqu'à maintenant, dans toutes les civilisations humaines, toutes les civilisations, la majorité, l'immense majorité, pour ne pas dire l'unanimité des personnes croyaient dans une religion dominante, quoi. Voilà. Donc s'inscrivaient là-dedans. Voilà. Et là, c'est l'inverse. Une minorité. Et il y a croire en Dieu, et puis après, essayer d'en tirer les conséquences pratiques. Donc c'est encore moins que 27%. Oui. Quels appels ça lance pour nous ? Moi, je me souviens... Quand j'étais à Paris, comme vicaire général, il y avait eu à un moment donné, j'habitais à l'époque rue des Ursins, sur l'île de la Cité, et je circulais beaucoup en scooter, c'était à peu près possible de circuler encore, et il y a eu à un moment donné, la place du Châtelet était occupée par un mouvement qui s'appelait Extinction Rebellion. Voilà. Et alors, je ne savais pas très bien ce que c'était que ce mouvement, mais je voyais que la conséquence immédiate de leur occupation, c'est que ça me plombait ma vie quotidienne parce que je ne pouvais pas circuler et que j'avais besoin de circuler. Donc, déjà, j'ai été fermé, donc on ne peut pas sortir de la cité. C'était un bazar invraisemblable. Donc, au bout de 2 ou 3 jours, un tout petit peu agacé, je me dis, je vais quand même aller voir ce qu'ils veulent, tous ces gens, parce que ça va bien. Et donc je rentre dans leur campement, là, c'était un campement, ça avait un côté un peu zadis, c'était plutôt assez sympa, comme voilà, un peu bohème, quoi. Alors je les rencontre, et je me rends compte en parlant avec les uns et les autres, qu'en fait tous ceux qui étaient là, ils avaient en fait profondément des préoccupations alors sur la planète, sur l'environnement, mais aussi sur le sens de la vie, sur le... Mais qui parle, voilà. Qui parle, c'est... qui écoute en fait ces inquiétudes-là? Comment est-ce que nous qui avons reçu la foi en Jésus-Christ, comment est-ce que nous on se laisse rencontrer, interpeller, voilà. Quelle oreille on prête à ces recherches-là? Quelle oreille on prête à ces quêtes? Comment est-ce qu'on se laisse rencontrer par cela? Le visage, le regard, les oreilles, et puis la bouche, voilà, la bouche et les mains. Comment on parle? Jésus, quand il envoie, quand il rencontre la Samaritaine, il lui parle. Et puis, quand il rencontre nombre de gens dans l'Évangile, il leur parle et il leur dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est la question que Dieu pose, ne cesse de poser à l'homme dans la Bible. Que veux-tu que je fasse pour toi? Souvent, les chrétiens disent aux autres ce que les autres doivent faire pour eux. Souvent, l'Église explique au monde ce que le monde devrait être. Mais est-ce que parfois, nous disons à ceux que nous rencontrons, en fait, de quoi as-tu besoin? Bien sûr, matériellement, mais humainement, mais plus profondément encore. C'est, là aussi, vous voyez, c'est la grande aventure de Vatican II, hein, dont on a célébré il n'y a pas très longtemps, les 60 ans. Hein. La grande aventure de Vatican II, c'est pour la première fois, de manière officielle, l'Église catholique s'interroge, et en s'interrogeant, interroge le monde, en disant, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ça aille mieux? C'est les grandes interventions des papes à la tribunation des Nations Unies, de Paul VI, puis après de ses successeurs, jusqu'à l'actuel. Comment est-ce qu'on peut voilà, permettre que, à travers ce que nous sommes, que vous puissiez trouver un écho à vos besoins, à vos recherches? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et puis, les mains de Jésus, voilà. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on rend présent de manière physique, j'allais dire, dans le monde d'aujourd'hui, auprès de ceux et celles que nous rencontrons, le Christ. Moi, je me souviens, j'ai passé une année, quand j'étais séminariste, en Bosnie, à Herzégovine, pendant la guerre, en 1993-1994. C'était très, très étonnant parce que. Le voyage, je passais 9 mois là-bas, entre Mostar et Sarajevo. C'était une année formidablement passionnante et intéressante. J'ai beaucoup aimé ce temps-là. Et après le retour de ces 9 mois de séjour là-bas, je prends l'avion à Split pour Paris. Et là, j'ai vécu un truc absolument étonnant. C'est-à-dire que c'était un avion qui était rempli de pèlerins parce que. En Bosnie-Herzégovine, il y a un tout petit bled qui maintenant est devenu une grosse affaire, c'est Medjugorje, un lieu d'apparition mariale, où il y a beaucoup, beaucoup de pèlerins qui vont. C'est un des plus importants lieux de pèlerinage occidentaux. Et donc l'avion était quasiment plein que de pèlerins, puis on devait être quelques d'autres, enfin une dizaine d'humanitaires à prendre ce vol. Et donc le vol décolle, on arrive en vue de Roissy, et au moment où on s'apprête à descendre vers Roissy, le pilote prend la parole et nous dit, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, j'aime très rassurant quand un pilote nous dit, quand on commence à descendre, qu'il a quelque chose à nous dire, on se dit, qu'est-ce que c'est que le truc. Et il dit, voilà, écoutez, j'ai à vous dire une chose. Alors, je vous le dis parce que je sais que vous pouvez l'entendre. Bon. Et il nous dit, voilà, moi j'étais en escale l'été dernier aux États-Unis, j'ai été à la messe un 15 août. À Boston, et j'ai entendu un prêtre qui disait ça, et je vais vous le redire, parce que ça m'a beaucoup touché. Bon, c'est un peu surprenant, un avion, Air France, une compagnie, c'est pas Air Vatican, vous voyez. Et alors, il dit, voilà, ben, le prêtre nous a dit, vous voyez, à la fin de la messe, il a dit, regardez vos mains. Alors, puis il a dit, ben, je vous invite à regarder vos mains. Voilà, regardez vos mains les uns et les autres. Alors, regardez ses mains. Bon. Puis, vous voyez, c'est ça, en fait. C'est ces mains-là dont Dieu a besoin pour construire son royaume. Et si les vôtres ne s'y mettent pas, ben, elles manqueront, tout simplement. C'est assez peu courant dans un vol régulier d'entendre ce genre d'invitation à passer à l'acte et à la mission. Je trouve que c'était en tout cas très, 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 très enthousiasmant. Et après, je vous le partage aujourd'hui parce que pour revenir à ce que je disais et pour boucler un peu la boucle de ce point de rencontre avec vous, vous avez été choisis. Pas parce que vous êtes des gens extraordinaires. En tout cas, vous l'êtes, mais pour plein de raisons différentes et pas pour des mérites particuliers. C'est-à-dire, vous n'êtes pas des gens ni plus intelligents que les autres, ni plus forts que les autres, ni quoi que ce soit de plus que les autres, enfin, à part moi. Mais vous avez été choisis, voilà, par Dieu. Voilà. Et ce choix-là, il vous a été révélé par l'amour dont vous avez été aimé. Et c'est l'amour de personnes proches qui vous ont fait comprendre que Dieu pouvait vous aimer et que son choix s'exprimait dans l'amour. Et c'est ce que rappelle Paul à Timothée. Quel que soit le prix des larmes et des difficultés que ça puisse provoquer en vous, cet amour de Dieu est un amour qui espère, qui espère en vous et qui sait que en vous ouvrant à sa présence, eh bien, vous pouvez laisser transfigurer vos vies par sa capacité à vous transformer vous-même. Je suis toujours très marqué par le fait que dans les évangiles, et sans doute vous aussi, vous l'avez remarqué à chaque fois qu'on proclame un texte où il est question de la résurrection de Jésus, très marqué par le fait que quand les témoins rencontrent le Christ ressuscité, jamais ils ne le reconnaissent du premier coup. Voilà. Toujours quand ils leur parlent ou quand ils posent un geste, leurs yeux s'ouvrent et ils se disent « mais en fait c'était bien lui et on ne l'a pas reconnu ». Paul nous donne un indice pour le comprendre et je terminerai mon intervention là d'aujourd'hui avec cela. Il nous dit dans la lettre aux Corinthiens aussi, dans le 15e chapitre, il parle de la résurrection des morts. Et c'est très intéressant parce que c'est exactement pour moi, ça résume ce que j'ai essayé de vous dire depuis tout à l'heure. Paul dit, en fait, il y a le corps charnel, qui est notre corps, voilà, qu'on donne à voir immédiatement quand on se présente les uns aux autres. Et dans ce corps charnel, il y a un autre corps, un corps spirituel, qui tisse en nous sa présence, d'une manière certaine, mais qui est beaucoup plus compliqué à appréhender par les autres. Ce corps spirituel, il est en fait la manière dont l'amour tisse en nous sa présence, forme en nous sa présence. Alors, il imprègne notre corps charnel parce que il en est absolument partie prenante, partie liée. Et ce corps spirituel, cet amour de Dieu en nous, voilà, qui se nourrit en fait de l'amour que nous avons les uns pour les autres, de cette fraternité dans laquelle vous vous retrouvez. Tout à l'heure, en arrivant, Vincent vous a remarqué, et c'est vrai qu'il y a entre vous quelque chose de l'ordre d'une très profonde fraternité, voilà, et très sincère fraternité. Voilà. Mais cet amour qui grandit en vous, voilà, eh bien, et qui transforme votre corps charnel sans même que vous vous en aperceviez, par les regards que vous posez, par les gestes que vous posez, par les paroles que vous prononcez. Cet amour-là, le jour viendra où il recouvrira toute votre personne. Et c'est cela la résurrection. La résurrection, c'est le moment où notre corps charnel est recouvert, transfiguré par ce corps spirituel, par cet amour qui vit en nous. Et qui fait que, dans la résurrection, nous sommes bien les mêmes que ce que nous étions, mais nous sommes totalement transformés. Et c'est, voilà, c'est pour moi une image magnifique de ce qu'est la résurrection. Eh bien, c'est ce chemin-là, en fait, et demain on aura l'occasion de revenir sur l'Église comme corps dont nous sommes les membres, chacun, voilà. Mais comment est-ce que cette démarche-là, cette compréhension-là, elle ne peut s'opérer qu'à partir du moment où nous comprenons vraiment ce que nous sommes les uns et les autres. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons été appelés à être par la grâce du baptême et par le don de la foi, et ce que nous sommes appelés à devenir pour la vie éternelle. Lorsque, parce que c'est cela qui nous est promis, et c'est à cela que chacun nous sommes prédestinés, lorsque nous connaîtrons, comme le dit Paul, en vérité. Lorsque nous contemplerons en vérité le visage de notre Créateur. Dans ce face-à-face auquel chacun est appelé sur cette terre et auquel parmi la foule de ces chacun, nous, par le baptême reçu, sommes appelés à manifester la réalité dès aujourd'hui. Voilà. Quelques mots que je voulais partager avec vous, et je serais très heureux si nous pouvions maintenant avoir un temps d'échange, et pour permettre ce temps d'échange, je vous propose quelques pistes de réflexion. Voilà, vous pouvez en petit groupe, hein, vous allez mettre en petit groupe, c'est ça, hein, voilà. Peut-être que vous puissiez évoquer, faire mémoire, puisque vous êtes là entre frères et sœurs, voilà, donc je pense qu'il y a une qualité d'échange et une vérité d'échange qui est possible assez naturellement, voilà, que vous puissiez dans un premier temps faire mémoire, chacun, de ceux qui ont été, alors pas de manière exhaustive, parce que peut-être certains en auront beaucoup, et d'autres un peu moins, mais donc pour ne pas être trop inégal, que chacun fasse mémoire d'au moins un ou deux de ceux qui ont été pour lui les Eunices et les Loïs, voilà, qui ont permis que cette foi lui soit transmise. Voilà. Et puis ensuite, de voir comment ensemble, les uns et les autres, vous pouvez réfléchir à cette phrase, hein, que je vous ai redite au début de mon intervention, et que Paul écrit à Timothée, « N'aie donc pas honte de rendre témoignage. » Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous la recevez, cette phrase? Qu'est-ce qu'elle provoque comme réflexion, comme réaction en vous? « N'aie donc pas honte de rendre témoignage. » Et vous pouvez, pour commencer ce temps, reprendre peut-être rapidement la lecture ensemble, dans chaque petit groupe, de ce début de la deuxième lettre à Timothée, donc vers chapitre 1, versets 1 à 11. Voilà.